RCF.
Vieillir dans la dignité. Le titre de l'ouvrage que publie Gilbert Hue aux éditions du Cerf pourrait résonner comme un oxymore, tant il est étonnant. Mais il y a un sous-titre, l'évidence d'un défi qui vient tempérer cette contradiction que pourraient suggérer ces deux termes. En effet, de nombreux témoignages, des enquêtes, des études, également un ouvrage qui a fait sensation au mois de janvier 2022, ont mis en évidence l'ampleur du problème que posent les conditions de vie des personnes âgées, les mauvais traitements et justement le manque de dignité auquel elles sont souvent, trop souvent réduites. Gilbert Hue, bonjour. Nous sommes ensemble, pas tout à fait dans un studio, puisque vous êtes à quelques centaines de kilomètres de nous. Vous êtes dans le hall d'un aéroport, et donc nous entendrons peut-être quelques sons qui ne sont pas familiers à ceux d'un studio. Et je vous remercie vivement d'avoir accepté de faire cette émission avec nous au sujet de votre ouvrage, dont le titre est, je le rappelle, « Vieillir dans la dignité ». Bonjour Gilbert Hue.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions du Cerf cet ouvrage qui nous interroge, qui interroge sur les conséquences du vieillissement, sur ses conséquences à la fois individuelles et collectives, dans des sociétés qui, comme les nôtres, ont désormais tendance à donner une espérance de vie de plus en plus longue, mais aussi à fournir, entre guillemets, des populations qui sont, je mets encore un guillemet, de plus en plus âgées, de plus en plus vieilles. Cela n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et vous, Gilbert Hue, qui êtes professeur de droit gériatrique, qui êtes chef du pôle de gérontologie clinique à l'université au CHU de Nantes. Vous êtes également fondateur du Gérontopôle des Pays de Loire. Vous connaissez depuis longtemps ce problème en tant que médecin, en tant que praticien, mais aussi peut-être, car vous donnez ce regard, en tant que philosophe, même si ça n'est pas votre métier. Donc, vieillir dans la dignité, l'évidence d'un défi, ces deux mots, vous les avez vous-même sentis comme contradictoires d'emblée pour que le sous-titre vienne tempérer cette contradiction, l'évidence d'un défi?
En fait, la contradiction interne, elle est dans le mot vieillissement. Parce que on a des données de population en France qui montrent qu'en effet, on meurt de plus en plus âgé, mais dans des conditions qui sont nettement améliorées par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et avec, par exemple, si je prends la dépendance, qui est un marqueur de vieillissement dans le langage politique, 83% des personnes de plus de 80 ans qui sont autonomes. Et il n'y a que à peu près 8% qui sont dépendants. Et encore, la dépendance dure 18 mois, ce qui est relativement bref au regard d'une vie, quand on a une espérance de vie à 88 ans. Pour les femmes, vous avez raison, et 82 pour les hommes. Et finalement, on se rend compte que on a la possibilité de vivre longtemps, autonome, dans la très grande majorité des cas. Et donc, le mot vieillissement résonne d'une manière un peu paradoxale dans ce contexte. Puisque lorsque l'on parle d'un livre sur les EHPAD ou de situations particulières, on est sur une proportion très, très, très minoritaire, et heureusement, de la population. C'est pour ça que dans le langage de gérontologie, de plus en plus, on tente à remplacer le mot vieillissement par celui de la longévité.
Oui, c'est un mot que vous préférez. Vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage qui porte sur cette question de la longévité.
En effet, la longévité exprime le fait qu'après le travail, nous avons entre 25 et 30 ans de vie à vivre. Et que cette vie est plutôt agréable. Les enquêtes d'opinion montrent que les tranches d'âge les plus heureuses, ce sont les 60-70 ans, jusqu'à 75 ans. Que le niveau de pauvreté est moindre chez les gens de plus de 60 ans que chez les gens plus jeunes. Qu'il y a un confort de vie matériel, affectif, qui existe. Et donc, finalement, on a un temps à vivre qui est long, plutôt agréable, finalement, dans la majorité des cas, et que le mot vieillissement, lui, a connu en fait une histoire contrastée, c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, dans le dictionnaire Furetière, c'est 1670, le mot vieillissement veut dire expérience, veut dire transmission du savoir, veut dire sagesse. Et quand on regarde les dictionnaires de la fin du XIXe et du début du XXe, tout d'un coup, le vieillissement devient, alors c'est dans le Grand Robert, le vieillissement, c'est le déclin inexorable vers la mort.
Oui, donc, quelle on est différence de connotation, de... oui.
Oui. Et alors, je me suis pas mal interrogé dans ce précédent ouvrage là-dessus, et je me suis dit que finalement, c'était la révolution industrielle qui avait finalement positionné la personne âgée de manière différente, parce qu'on a de plus en plus une appartenance à la société par le travail, et je dirais même une participation à la solidarité via les cotisations par le travail. Et donc, une personne qui ne travaille pas et qui ne pourra jamais travailler parce qu'elle est âgée devient finalement quelqu'un qui prend un peu l'argent de ceux qui travaillent.
C'est quelqu'un d'un donc, peu inutile, Gilles Berru. Il est ressenti comme
travail,
inutile.
Oui, si le travail égale l'emploi, et que l'emploi égale l'appartenance à la société, la participation à au bonheur collectif, dans ce cas-là, la personne âgée, finalement, a moins sa place. D'autre part, les progrès techniques ont montré que l'expérience de la personne âgée n'était pas forcément source de savoir complémentaire ou supplémentaire. Et donc, progressivement, s'installe une image qui est très négative du vieillissement. Et aujourd'hui, en fait, si on ne se pose pas la question, vieillissement égale maladie, déficience, dépendance... voilà.
Oui. Mais pour beaucoup de nos proches, de nos semblables, de notre entourage, pour le point de vue commun, vieillir, c'est décliner, vous venez de le souligner, mais c'est perdre. C'est perdre tout ce qui nous donnait confiance en nous-mêmes et tout ce qui créait une estime de soi. Alors, il y a de multiples pertes que vous évoquez dans cet essai sur lesquelles nous reviendrons. Et comment contrecarrer, comment faire pour justement ne pas tomber dans ce piège qui associe nécessairement longévité à ce déclin inexorable.
Cela dépend des qualités que l'on donne à une personne pour appartenir à la société. Si c'est son niveau de consommation, si c'est son niveau de production matérielle, etc., évidemment que la personne a une impression de déclassement.
Oui.
Si l'appartenance à la société, c'est la capacité à faire du lien social, c'est participer à l'action associative afin de travailler à réduire les injustices ou à améliorer l'environnement. Si c'est la possibilité de participer à l'accompagnement des plus jeunes, etc., on se rend compte que les personnes âgées sont plutôt leaders là-dessus.
Oui. Elles sont même parfois très actives. Et vous soulignez dans votre ouvrage que parfois, quand la retraite arrive, elles sont même suractives quand elles envisagent de combler ces années les plus agréables entre 65, 75 ans ou en pleine forme encore. On peut être utile autour de soi.
Oui, oui. Par exemple, il y a une évaluation qui a montré que les personnes de plus de 65 ans produisent environ 30 milliards d'euros de services non salariés.
Un travail invisible.
Travail invisible. Entre les gardes d'enfants, entre le fait d'être aidant, entre le fait d'avoir des mandats électoraux, en fait, des locaux, de participer à la vie sociale, au partenariat entre l'État et les associations, qui est quand même la clé de voûte du travail social. Là, on s'aperçoit que cette génération, en plus qui a été éduquée dans la notion de servir et puis du collectivisme, est très très active et très utile. Imaginez un moment, la société, on enlève les gens de 65 ans de la société. Ça serait une société terrible.
Elle ne pourrait peut-être pas fonctionner d'ailleurs.
Non, je pense pas. Elle ne pourrait pas fonctionner et puis je pense que ça serait très difficile à vivre en fait. Donc, ça dépend où on met le curseur de son utilité sociale. D'autre part, il y a des... J'aime bien citer cet exemple en recherche neuropsychologique. Une personne de 30 ans utilise environ 3000 mots, possède 3000 mots, voilà, en moyenne. Et une personne de plus de 65 ans a un vocabulaire de 5000 mots. Parce qu'en fait, elle a appris beaucoup de choses par son expérience, vocabulaire spécifique ou vocabulaire plus affiné. Et donc, finalement, on s'aperçoit que les données neuropsychologiques ne sont pas tous vers le déclin, qu'il y a des choses qui sont plus performantes chez les personnes âgées. Et donc, on peut écrire une histoire de la longévité qui n'a pas grand-chose à voir avec la projection anxiogène du vieillissement qu'on porte naturellement.
Alors, est-ce que cette image très négative du vieillissement ou de la longévité, pour ce qui vous concerne, n'est pas liée également à un discours dominant où la vieillesse, quand on en parle d'ailleurs, est systématiquement associée, alors vous le disiez, à la maladie, aux douleurs, à la solitude, à la dépression, et pire encore, à la démence qui crée des peurs terrifiantes autour de nous.
Bien sûr, les personnes de 65 ans et de 70 ans s'occupent de leurs parents qui en ont 90 et se disent « c'est terrible ». Quand ils ont des parents qui sont atteints d'une maladie cognitive ou qui vivent des situations particulières, c'est vrai, bien sûr. Mais il faut quand même distinguer. C'est un peu comme si je disais, voilà, qu'est-ce qu'un Français ? Ben, un Français, c'est un cardiaque qui a fait un infarctus. Ben, on va dire, ben non, c'est une proportion quand même infime par rapport à la population. On ne peut pas résumer une population à des particularités qui sont liées à la maladie. Et la maladie ne peut pas définir un âge de la vie.
Oui.
Donc c'est là qu'on fait, il y a un effet loupe. Alors c'est vrai que ces situations sont dramatiques, c'est vrai que ces situations nécessitent beaucoup de moyens, beaucoup d'attention, de formation, et ça c'est tout à fait vrai. Et le travail reste encore à faire largement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas comprises, méconnues et pas prises en compte suffisamment. Mais lorsque l'on parle de la vie humaine, on a le droit aussi de dire autre chose.
Oui.
C'est que avancer en âge, c'est pas une obligation de perte de dignité, et qu'au contraire, on a une sorte de finesse dans son regard, dans son expérience, qui fait que on a une appréciation plus juste du prix de la dignité. C'est pour ça que le petit parcours philosophique dans ce livre,
oui,
ça fait partie de ce travail d'écriture, d'explorer la question de la dignité.
Oui, alors justement, vous citez quelqu'un d'éminent, Charles de Gaulle, qui disait, la phrase est très connue, « La vieillesse, quel naufrage !» ou encore Georges Brassens, « Mourir, oui, mais de mort lente !» Il y a ces clins d'œil, je dirais. La vieillesse, si elle s'accompagne de la dignité, notion très importante sur laquelle nous allons nous entretenir, n'est pas ce naufrage stigmatisé par Charles de Gaulle, justement.
Oui, en effet, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas le seul visage que l'on peut donner, et c'est sûrement pas un visage majoritaire. Je pense que Charles de Gaulle parlait comme un homme de la fin du 19e oui. et du début du 20e, où on était véritablement dans une problématique de production, d'efficacité sociale visible.
De performance aussi, dites-vous.
Et de performance, ben oui, c'est ça, et de performance. Si on est humain quand on est performant, ça pose quand même une question. Ça pose quand même une question.
Et des questions métaphysiques même, philosophiques, voire
oui,
métaphysiques. Qu'est-ce que c'est que la vie si elle se réduit à la performance qui ne dure, somme toute, que quelques décennies, enfin très peu de décennies, devrais-je dire même.
Ah bon, on arrive aujourd'hui dans l'histoire d'une vie à rentrer sur le marché du travail avec quelques expériences à 30 ans pour être considéré à 45 ans comme déjà trop vieux. Donc évidemment, dans ce cas-là, si la maturité est entre 30 et 45 ans, il ne reste pas grand-chose de la vie. On arrive finalement à des situations d'un imaginaire collectif qui est absurde.
Oui.
Nous-mêmes, on est tous vulnérables. On sent bien que finalement, c'est au sein de la vulnérabilité qu'on sent notre humanité. Et c'est aussi au sein de notre vulnérabilité, quelquefois, qu'on a du prix aux yeux des autres et pas du tout de la performance.
Oui. Au sein de notre vulnérabilité, de notre fragilité commune, personnes âgées, moins âgées ou jeunes. Et quand votre livre propose bien sûr de nombreuses analyses, mais aussi des anecdotes. Vous citez par exemple le cas d'un média breton où l'un des intervenants dit que on devrait retirer le droit de vote aux personnes de plus de 80 ans. Alors j'ai été saisie par cet exemple parce que ça n'était pas du tout une plaisanterie.
Ah donc ? Non, non, c'est une analyse sérieuse. Si, reprenons, on va essayer d'imaginer ce que celui qui affirme ça a dans la tête. Le vieillissement est un naufrage. Le vieillissement, c'est d'être en maison de retraite dément, d'être un poids pour la société, de refuser tout ce qui est jeune et l'avenir, et de ne rien comprendre finalement à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pourquoi de telles personnes devraient élire un président de la République ou un élu représentant de la nation? Il est évident qu'avec cette image-là du vieillissement, il faut absolument enlever le droit de vote très rapidement.
Et à de très nombreuses personnes, finalement. Alors, quels seraient les représentants?
Ceux qui sont au-dessus de 80 ans, qui soient autonomes, qui soient... Voilà. Mais comme on est dans une image de rejet fantasmatique, de racisme, d'agisme,
oui.
C'est-à-dire que chaque individu est comparable à l'image qu'on se fait de la population, c'est la définition même du racisme, et bien dans ce cas-là, il est évident qu'il faut une mesure urgente pour que enfin les forces vives de la nation, qui se situent entre 18 et 45 ans, travaillant en étant en centre-ville avec des idées modernes, puissent être ceux qui élisent, à condition évidemment qu'ils se déplacent pour aller voter. C'est une autre question. Mais vous voyez, on est sur des raisonnements qui peuvent sembler logiques, mais en le disant, on se rend compte que c'est presque une farce.
C'est presque une farce,
ce n'est
oui.
pas la réalité.
Oui.
Alors, mais c'est dit très sérieusement et avec des échos dans la presse qui n'étaient pas du tout de rejet, mais en disant, bah, voilà une question nouvelle auquel il faut qu'on réfléchisse.
Alors, à ce propos aberrant... ridicule et discriminatoire. Pendant quelques secondes, nous allons opposer la tendresse de Jacques Brel dans une chanson que vous avez dû écouter à de nombreuses reprises, Gilbert Rue, c'est les vieux.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil.
Dialogue, Monserrata Vidal.
Gilles Béru, à cette chanson de Jacques Brel que, pour ma part, je trouve tendre, comment réagissez-vous, et notamment à cette récurrence « Les vieux ne plus » qui, justement, me semble exprimer cette perte progressive de ce qui les caractérisait lorsque ils étaient jeunes?
Bien, Jacques Brel a l'image des personnes âgées des années 60,
oui,
qui partaient à la retraite à 60 ans pour mourir de la silicose à 63.
Oui.
Dans ces pays du Nord, où le travail est dur, la personne âgée, c'est celle qui, enfin, peut se reposer après le travail, mais il y a laissé tellement d'énergie, avec une santé tellement dégradée, qu'elle est dans cette perte. Évidemment, quand on voit une jeune femme de 66 ans habillée en jogging le samedi matin et qui font son activité physique, qui pilate, puis après elle fait une marche nordique, etc., on est quand même très très loin de Jacques Brel, parce oui, que justement est survenu cet âge de la longévité qui a débuté dans les années 80 sur le plan démographique, parce que c'est à partir des années 80 que l'espérance de vie est liée à un allongement de la vie, alors que l'augmentation de l'espérance de vie avant était liée à une diminution de la mortalité enfantine et par les accidents du travail.
Vous parlez donc même de transition démographique, Gilles Béru. Il y a une expression qui parle de
oui,
transition démographique, hein.
Oui, oui, on a les plus de 80 ans qui vont augmenter de manière très importante à partir de 2027. Et ça va se poursuivre d'une manière croissante, permanente, jusqu'en 2040-50, pour rester en plateau à peu près jusqu'à la fin du siècle et redescendre à l'horizon de 2115 à peu près. C'est-à-dire qu'on est à la veille, en fait, d'un véritable bouleversement démographique. Et aux horizons 2035-2040, on va être à 30-35% de la population qui auront plus de 60 ans. Et donc avec une nouvelle répartition des âges et avec des personnes âgées qui seront relativement en bonne forme, hein, parce que les grands facteurs de vieillissement altéré commencent à être mieux maîtrisés. L'hypertension artérielle, oui, le cholestérol, le diabète, l'activité physique, les nouvelles générations ont bien compris. Donc on va être sur des modèles avec des milliers, des dizaines de milliers de centenaires, et probablement aussi, et ça c'est, les études le montrent, avec une réduction aussi du pourcentage de personnes ayant une démence, parce que dans le même moment, on a aussi une augmentation du niveau d'études, qui est un facteur de protection de l'apparition des déficits liés à la démence. Mais donc, en fait, on a un nouveau paysage. L'OMS avait parlé du Big Bang de la longévité.
Ah oui, voilà. Big Bang de la longévité, oui. Mais ce dont vous parlez, Gilbert Ruud, s'applique-t-il aux sociétés occidentales très protégées, très privilégiées, ou peut-on étendre cette analyse à des zones beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dépourvues de soins et de cette médecine de pointe dont vous êtes d'ailleurs un exemple?
Alors en fait, l'OMS, il parle pour le monde entier. Et pas uniquement pour les pays occidentaux.
Oui.
Le vieillissement, il est mondial. En Afrique, il n'y a jamais eu autant de personnes de plus de 60 ans. Alors c'est sûr que la proportion n'est pas la même, mais le vieillissement de la population en Afrique est en route, puisque les conditions de vie se sont largement améliorées.
Partout, contrairement aux impressions qu'on peut avoir, et que donnent parfois des médias partout. Un peu rapides.
Et en Chine, alors là, on a cas de figure qui est très particulier, c'est que le baby-boom qui a eu lieu en 45 chez nous a eu lieu en 35 en Chine, à la suite de la chute de la République de Sun Yat-sen et le début du début, je dirais, de la révolution.
Oui.
Et ça a été suivi après par l'enfant unique. Donc on se retrouve avec des proportions de personnes âgées qui sont extraordinaires. Il y a d'ailleurs un comité stratégique de la longévité en Chine pour essayer de voir comment on peut organiser la société avec un nombre très important de personnes âgées et aucun enfant autour pour s'en occuper. L'enfant, en ce moment, ils vont payer très cher l'enfant unique.
Hein, l'enfant
sûr,
unique,
parce que ils ont cassé évidemment le rythme démographique normal. Il y a même une université au sud de Pékin qui est consacrée uniquement aux technologies pour aider l'avancée en âge.
Gilbert Ruud, vos propos balayent beaucoup de lieux communs qui nous sont assénés ici et là. Nous allons faire une seconde émission concernant cette question du vieillissement et de son rapport avec la dignité. Encore merci Gilbert Ruud d'être dans un aéroport, dans des conditions un peu acrobatiques, mais j'incite nos auditeurs à lire votre très bel essai « Vieillir dans la dignité » publié aux éditions du Cerf.